vous fait de mal. » Ils crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant alors contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Évangile selon saint Marc.
Ans d'histoire. Il y a près de 2000 ans, le procès de Jésus, crucifié par les Romains au fin fond de leur empire, n'était qu'un procès parmi d'autres, si banal d'ailleurs, que la nouvelle n'est pas arrivée jusqu'à Rome. Personne alors ne pouvait imaginer que la mort de ce Galiléen allait bouleverser l'histoire du monde en donnant naissance à une religion nouvelle. Tout ce que l'on sait d'ailleurs de son procès ne tient qu'en quelques lignes des évangiles. Mais elle provoque depuis toujours d'interminables controverses. De quoi Jésus pouvait-il être accusé? Et surtout qui, des Juifs ou des Romains, est responsable de la condamnation et de la mort du Christ, de celui qui, en entrant à Jérusalem il y a 2000 ans, défiait les autorités religieuses et politiques de l'époque, en étant accueilli comme un prophète, fils de Dieu et roi des Juifs?
Jérusalem va fourmiller de pèlerins qui se préparent pour fêter la Pâque. Y entrera-t-il directement?
Il a dit qu'il trouverait la mort dans cette ville.
Et qu'il ressusciterait ensuite.
Le roi des Juifs! C'est lui, le prophète!
Qui est ce Jésus de Nazareth?
C'est un prophète. Un grand prophète.
Un prophète? Sur un âne?
Michel Quesnel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes recteur de l'Université catholique de Lyon et auteur d'un livre, Jésus, l'homme et le fils de Dieu, qui vient d'être publié chez Flammarion et dans lequel vous consacrez quelques pages au procès et à la passion du Christ. C'est un sujet qui provoque, on sait, toujours autant de polémiques. On s'en est rendu compte récemment à l'occasion de la sortie du film de Mel Gibson. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais à l'époque où vivait Jésus, son procès, sa condamnation à mort, c'était vraiment un simple fait divers, sans l'importance qu'il avait aujourd'hui.
Oui, pour pas lui donner une importance politique majeure lorsque les choses se sont produites. Jésus était un homme du peuple. Ce qui s'est produit à Jérusalem est une condamnation rapide. Je ne suis pas sûr que le mot procès convienne très bien, d'ailleurs.
On parlait même d'assassinat politique.
Voilà. Dans mon livre, c'est le mot que j'emploie. Il n'y a pas eu de procès en bonne et due forme. Jésus a été confronté à des grands prêtres de l'époque qui voulaient sa mort. Et les choses se sont passées dans une séance un peu expéditive, de nuit. Le Sanhédrin, le conseil, le grand conseil du monde juif de l'époque ne s'est pas réuni dans son entier. Simplement, les chefs du Sanhédrin, les grands prêtres et quelques-uns de leurs comparses immédiates se sont réunis, se sont prononcés en faveur de la mort, et c'est comme ça que les choses se sont faites.
Alors d'ailleurs, ça a tellement peu d'importance qu'au fond, très peu d'historiens du monde romain en parlent. Et puis alors surtout, la principale source dont on dispose, ce sont les évangiles, mais le premier d'entre eux a été écrit, pense-t-on, à peu près au moins 30 ans après la mort du Christ, hein, celui de saint Matthieu. Et puis surtout,
c'est Marc,
les évangiles...
D'abord.
Et alors surtout, les évangiles, c'est pas des livres d'histoire, hein, ils sont chargés, ce sont des textes apologétiques qui sont chargés d'apporter la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est le sens du mot en grec.
Oui, ce ne sont pas des chroniques. Je crois que c'est très important de se dire cela. Et il faut se rappeler que à l'époque, on prenait en général peu de notes écrites pour des événements de cette faible importance-là. Ce sont finalement les traditions orales qui rapportent les événements. La mise par écrit est plus tardive. Et ce sont les textes qui sont rédigés à la lumière de la résurrection, c'est-à-dire la façon dont Jésus était vénéré par la suite. Autrement dit, ça ne prétend pas être des reportages des choses qui se sont produites. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a plusieurs évangiles. Et que...
Oui, mais ils sont différents, hein, voilà. Selon d'abord les auteurs, hein, il y a Marc, Matthieu, Luc ou Jean, oui. Et selon les personnes auxquelles ils s'adressent. Alors ils sont tous écrits dans le monde romain, hein, bien sûr, si bien que presque tous, ils ont au moins en commun une chose, c'est qu'ils sont plutôt indulgents pour le procurateur romain qui a prononcé la condamnation à mort et qui est Ponce Pilate.
Alors Pilate était gouverneur de la Judée, il résidait en temps ordinaire à Césarée, qui était la capitale romaine de la Judée, et il montait à Jérusalem lorsqu'il risquait d'y avoir des mouvements et voire des émeutes. C'est la raison pour laquelle Pilate était sur place à l'époque, et il est vrai que Pilate a laissé chez les historiens une image beaucoup plus dure que ce que les évangiles en donnent. C'était pas du tout à attendre. Il a à plusieurs reprises organisé des massacres de juifs fautifs. Il a été rappelé à Rome, d'ailleurs, en 36 de notre ère, parce que il risquait de mettre, par sa dureté, la paix en péril. Donc l'image assez favorable à Jésus que donnent les textes est sans doute assez peu conforme à la réalité historique.
Alors en revanche, tous admettent que les juifs aussi portent, enfin certains juifs en tout cas, portent une part de responsabilité. Alors il y a deux textes notamment qui posent problème. Il y a celui de Matthieu qui fait dire aux juifs que son sang soit sur nous et sur celui de nos enfants. Bon, ce qui est évidemment grave, on pense à la suite. Ou Jean encore qui ne fait pas très bien la distinction entre les juifs et qui a tendance à ne pas distinguer ceux qui voulaient effectivement la mort de Jésus et ceux en revanche qui ne la voulaient pas, d'autant plus que Jésus lui-même était juif.
Je crois que vos deux remarques méritent quelques commentaires. D'abord, lorsque dans l'évangile de Matthieu, on entend cette phrase célèbre « que son sang retombe sur nous et sur nos enfants », ça ne veut pas dire « jusqu'à la fin des temps ». C'est-à-dire que c'est une formule, si vous voulez, de personnes qui acceptent la responsabilité des décisions qu'ils prennent. Mais, et là, c'est une foule, d'ailleurs, qui le crie. Donc, en fait, la foule veut affirmer qu'elle est d'accord avec la mort de Jésus, sans plus. Et si on fait, si on prolonge la mort des enfants jusqu'à la fin des temps, on extrapole beaucoup par rapport au sens de la formule.
Qu'est-ce que les juifs, ou certains juifs, Michel Quesnel, pouvaient reprocher? Autrement dit, quels sont les motifs d'accusation que le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité juive suprême à Jérusalem, pouvait reprocher à Jésus? On l'a entendu, il rentre comme un roi à Jérusalem, peu de temps avant son procès, Et puis on dit il est prophète. Alors ça, cela dit, les prophètes, il y en a eu dans l'histoire des Juifs. Il est le Messie. Le judaïsme prévoit l'arrivée d'un Messie. Il est aussi coupable d'avoir profané le temple juste après.
Je crois que le principal reproche que les grands prêtres de l'époque faisaient à Jésus, c'était de risquer la déstabilisation. C'est-à-dire que l'équilibre entre les autorités juives de l'époque et le pouvoir romain était fragile, sans cesse menacé lorsqu'il y avait un excès dans un sens ou dans l'autre, et l'action que Jésus a faite dans le temple, peu de temps après son arrivée à Jérusalem, était très déstabilisatrice, mettant en cause l'autorité des grands prêtres et mettant en cause par là l'équilibre politique de l'époque.
Et puis surtout, on lui reproche de se proclamer fils de Dieu, c'est ce que le grand prêtre du Sanhédrin, Caïphe, reproche à Jésus quand il comparaît devant lui.
Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le fils de Dieu. Alors je te le demande. Au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?
Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce Pilate, entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements.
Le blasphémateur, c'est ce qu'on entend à la sortie de ce premier procès, qui est un procès purement religieux devant le Sanhédrin, Michel Quesnel, c'est parce qu'il se proclame le fils de Dieu qu'il est considéré comme blasphémateur?
Non, le mot fils de Dieu en soi n'est pas blasphématoire. D'abord, fils de Dieu est un terme plus banal dans le monde juif du premier siècle qu'il l'est pour nous. Pour nous, fils de Dieu, ça évoque tout de suite la divinité de Jésus. En fait, l'expression fils de Dieu est relativement courante dans le judaïsme du premier siècle. Le roi est fils de Dieu, le Messie est fils de Dieu, Israël est fils de Dieu, et toute personne juste que Dieu protège est fils de Dieu. Autrement dit, le blasphème n'est pas dans la reconnaissance par Jésus du fait qu'il peut être appelé fils de Dieu, mais c'est dans la phrase qui suit. vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du puissant et venir sur les nuées du ciel. Autrement dit, il y a un mouvement de descente depuis le ciel jusqu'à la terre qui est attribué à cette figure un peu énigmatique du Fils de l'homme. Et c'est là qu'il y a, si vous voulez, quelque chose de céleste dans la personne de Jésus, ou dans, au moins dans la personne qu'il nomme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pardon. Et il est là, c'est là que, disons, quelque chose de divin intervient sur la face de la terre et que les grands prêtres parlent de blasphème.
Alors le blasphème, je crois qu'il est passible de la mort, Michel Quesnel.
Oui, le blasphème peut aller jusque-là. Le blasphème peut aller jusque-là, mais alors si ça avait été les juifs qui étaient les maîtres du pays, la mort pour les, enfin, ordonnée par des juifs, ça se terminait par la lapidation. C'est-à-dire que c'était un autre type de mort qui serait arrivé, et dans la situation dans laquelle on se trouvait, en occupation romaine, les autorités juives n'avaient pas la possibilité de réaliser la mise à mort.
Voilà, et c'est la raison pour laquelle, on l'a entendu, le Sanhédrin renvoie Jésus devant l'autorité politique, c'est-à-dire le procurateur de Judée, c'est-à-dire Ponce Pilate.
Absolument. Alors qu'il n'était d'ailleurs pas procurateur, hein, le terme le plus précis est le terme gouverneur ou préfet, parce que procurateur est un titre un peu plus tardif pour le pays. Donc Pilate résidait à Césarée, comme j'ai dit tout à l'heure, était présent à Jérusalem, et on profite donc de sa présence pour obtenir de lui la condamnation à mort que les grands prêtres qui ont mené cette, non pas ce procès, le mot est excessif, enfin, cet interrogatoire rapide, voulaient se voir terminer par la mort de Jésus.
Alors là, ça devient un procès ou un interrogatoire politique. On était dans le religieux, là on vient dans le politique. Mais alors justement, qu'est-ce que les Romains, à leur tour, peuvent reprocher à Jésus, Michel Quesnel?
Ben, le terme roi des Juifs, alors là, devient, si vous voulez, un terme très dangereux pour le pouvoir romain, parce que nous sommes sous l'occupation. Il n'y a plus de roi depuis relativement longtemps. Hérode avait encore le titre de roi, mais ses fils ne l'avaient plus. Et en l'an 6 de notre ère, Archélaüs, qui était fils d'Hérode, avait été détrôné de son trône de Judée par les Romains, parce que il était un roi infidèle, pas suffisamment soumis à Rome. Autrement dit, depuis l'an 6 de notre ère, on était sous le régime de l'occupation romaine précise avec un préfet de Judée. Et donc, proclamer
être
un roi des Juifs,
c'est remettre en cause l'autorité de Ponce Pilate. Et d'ailleurs, assez curieusement, dans au moins 3 des 4 évangiles, quand Ponce Pilate demande à Jésus « Est-ce que tu es roi ?», il élude la question en disant « Tu le dis ».
Tu le dis, voilà. Il renvoie à Pilate la responsabilité de son propos.
Alors, autre reproche que les Romains peuvent faire à Jésus, c'est qu'il entretient le désordre dans une province romaine, et notamment, il refuse de payer l'impôt.
C'est plus compliqué que ça. Parce que dans l'histoire de l'impôt à Pilate, il se trouve effectivement que Jésus a fait la distinction entre... l'impôt à César. Il a fait la distinction entre le pouvoir de César et le pouvoir de Dieu. Mais je ne pense pas que Jésus ait été tellement subversif au plan politique dans sa prédication. Hein, je crois que...
D'autant plus qu'il n'aime pas qu'on mélange le pouvoir politique et le pouvoir de Dieu.
Voilà. Ouais. Les débats que Jésus... a eu en Galilée avant d'arriver à Jérusalem était principalement des débats à l'intérieur du monde juif. Jusque-là, rien ne conduit à la mort. Je crois que s'il n'y aurait pas eu les derniers jours à Jérusalem avec ce que l'action faite dans le temple et la condition de prophète qui lui était reconnue comme annonciateur de la destruction du temple et d'un règne que les gens de l'époque pouvaient comprendre comme un règne juif, contraire à l'occupation romaine, jusque-là, il n'y aurait pas eu de motif de condamnation. C'est vraiment parce que nous sommes à Jérusalem et que le pouvoir romain est fragilisé par l'annonce d'un règne dont Rome pourrait être exclue que Pilate, à ce moment-là, entre en scène et décide la mise à mort.
Mais pas tout de suite, à l'évidence, et là encore tous les évangiles le disent, il hésite. Hein, qu'a fait cet homme, c'est ce qu'on trouve dans les évangiles, Michel Quesnel, à l'évidence, il n'a pas envie de le juger, il n'a pas envie de le condamner à mort. Il l'envoie même à Hérode, parce qu'il dit, bon, Jésus, il est peut-être à Jérusalem maintenant, mais il est né en Galilée, donc ils disent, Hérode est le roi de Galilée, là, en revanche, il y a un roi juif en Galilée, on l'envoie à Hérode, Hérode veut pas non plus le juger, on a l'impression que personne n'a envie de juger, en tout cas de condamner Jésus, Michel
Quesnel. Alors, l'épisode d'Hérode, d'abord, n'intervient que dans un seul des évangiles, dans l'évangile de Luc seulement. Donc, historiquement, c'est quand même un épisode qui est sujet à caution. Deuxièmement, il faut quand même se dire que les évangiles rédigés dans des milieux méditerranéens, donc ayant pour destinataire le plus souvent des Grecs ou des Romains, ont quand même eu un peu tendance à excuser le pouvoir romain et à charger le pouvoir juif. Autrement dit, je crois que la scène de choix entre Jésus et Barabbas, telle qu'elle est racontée dans les évangiles, est une scène historique.
Oui, mais il faut la rappeler. Jésus, donc, se retrouve devant Ponce Pilate, et puis alors Ponce Pilate, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et là, il tente, je ne sais pas s'il tente de sauver Jésus, mais en tout cas, il propose aux Juifs présents à Jérusalem de choisir, parce que c'est la Pâque, et à la Pâque, on a droit de le faire, de choisir de libérer un des deux prisonniers, c'est ça, c'est
Il y a une coutume qui rendait possible la libération d'un prisonnier juif, et donc Pilate donne le choix entre Jésus et Barabbas.
Lequel des deux doit être relâché ? Jésus de Nazareth ?
On ne peut pas laisser faire ça ! Il faut intervenir !
Tout homme de s'être déclaré roi des Juifs !
Regardez ! Il porte une couronne !
Oui ! Barabbas !
C'est un traître ! Tu es Nazaréen ! Lâchez Barabbas !
Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné
à mourir crucifié.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le procès de Jésus.
Et c'était un extrait de la Passion selon Saint Jean de Bach par le Collegium Vocal de Jean dirigé par Philippe Hervègue, le moment donc où les légionnaires se partagent la tunique de Jésus au pied de la croix. La crucifixion, c'est vraiment un supplice romain.
C'est un supplice romain où il y a quelques autres peuples orientaux qui l'ont, semble-t-il, pratiqué, les Parthes en particulier. Mais à l'époque où nous sommes, au 1er siècle de notre ère, en terre juive, c'est vraiment la façon de mettre à mort des Romains et pour les gens de milieu populaire. Les citoyens romains avaient le privilège, si j'ose dire, d'avoir la tête tranchée.
C'est réservé effectivement aux classes pauvres, c'est d'une violence inouïe d'ailleurs.
C'est d'une violence inouïe, les gens étaient suspendus par les mains, en fait c'est ça le principe, si vous voulez, on est suspendu par les mains, et on meurt par étouffement, et alors donc il y avait quand même en général un petit support pour les pieds, ce qui fait que les gens en se tendant sur leurs jambes arrivaient à reprendre un peu de souffle, et puis après ils s'épuisaient, ils retombaient, et l'agonie durait des heures en général.
Affreuse, hein, alors c'est un moment du film de Mel Gibson sur lequel le réalisateur s'attarde longuement, on a reproché d'ailleurs la violence aussi des flagellations, comme si véritablement, vous avez employé dans une émission récemment le terme de sadique, comme si vraiment, est-ce que c'était comme ça?
Alors, la flagellation n'était pas aussi systématique, c'est-à-dire que flageller le crucifié, ça avait, si j'ose dire, un double but, d'abord le fait de l'affaiblir, et ensuite, le fait que, bon, lorsque les soldats romains avaient un condamné, ils s'amusaient avec lui, si j'ose dire, de la façon la plus tragique qui soit, en se moquant de lui.
Il y a la scène où, effectivement, les Romains lui mettent aussi, par dérision, une couronne d'épines sur la tête, Michel Quesnel. Il y a aussi la tunique rouge qui était réservée, justement, au pouvoir politique.
Un vêtement royal, tout à fait. Donc là, si vous voulez, il y a tout un processus de moquerie, de dérision qui est très fort. Et alors après, donc, le crucifié, enfin le futur crucifié, était conduit jusque à l'endroit où les piquets verticaux des croix étaient plantés. Il portait, lui, la poutre transversale, en général, sur ce qu'on appelait le patibulum, devenu le mot patibulaire en français. Et il portait donc la poutre transversale par laquelle on le suspendait par les mains, et c'est là effectivement que son corps restait en agonie pendant des heures.
Un autre reproche qui a été fait au film de Mel Gibson, c'est d'avoir ranimé l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme en rappelant au fond le crime de déicide dont les juifs ont été longtemps accusés du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, l'accusation de déicide que les chrétiens vont faire porter aux juifs pendant des siècles est ancienne. Un certain Origène, au IIIe siècle, l'affirme. Les juifs ont commis le plus abominable des forfaits en tramant ce complot contre le Sauveur. Au Ve siècle, c'est aussi ainsi que le grand saint Augustin explique la diaspora. Les juifs, les meurtriers du Christ, dit-il, furent arrachés de leur pays et dispersés dans l'univers. Alors, cette accusation de déicide va perdurer au Moyen Âge, notamment à l'époque des croisades, où elle sert de justification au massacre de juifs. À quoi bon s'en aller au bout du monde pour combattre les Sarrasins, demande l'abbé Pierre de Cluny, alors que les juifs, parmi nous, sont 100 fois plus coupables envers le Christ que les Mahométans. Et le Moyen-Âge n'a pas attendu Mel Gibson pour en faire du grand spectacle. Au XIVe siècle, déjà, apparaissent les mystères de la Passion. Hein, c'est des spectacles populaires joués sur les parvis des églises qui relatent les derniers moments de la vie du Christ avec force, cris et hémoglobine. Dans le mystère de Jehan Michel, par exemple, qui est spécialement violent, ce sont les Juifs eux-mêmes qui torturent le Christ. Ils lui frappent sur les épaules et sur la tête. Regardez le sang ruisseler de son museau. Et après la crucifixion, il lui crache dessus et tire au sort les parties de son corps pour se les partager. En autre forme d'instruction religieuse, si on peut dire, les livres de catéchisme, par exemple celui au XVIIe de l'abbé Fleury, qui en deux siècles connaîtra 172 éditions, on y lit « Jésus eut-il des ennemis ?» Oui, les Juifs. Jusqu'où alla la haine des ennemis de Jésus ? Jusqu'à résoudre sa mort. En Bossuet, dans ses célèbres sermons, va encore plus loin. Le plus grand crime des Juifs n'est pas d'avoir fait mourir le Sauveur. Cela vous étonne. Ce crime si noir, si abominable, quel est-il ? C'est leur impénitence, dit donc Bossuet. Bon, du côté protestant, Luther n'est pas mieux. Sache, ô Christ adoré, qu'à part le diable, tu n'as pas d'ennemi plus venimeux, plus acharné qu'un vrai juif. Alors cet anti-judaïsme théologique, hein, comme on dit, va être repris au 19e, même par les idéologues antisémites. Édouard Drumont, par exemple, écrit « Les juifs haïssent le Christ en 1886 comme ils le haïssaient du temps de Tibère Auguste. Fouetter le crucifix le vendredi saint, telle est la grande joie du juif. » Alors, il faudra attendre Vatican II pour que l'Église catholique abandonne officiellement cette accusation de déicide. En 1965, l'Église déclare en effet « Encore que des autorités juives avec leurs partisans aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les juifs vivants, ni aux juifs de notre temps. »
Ça c'était Vatican II, mais avant de un commentaire peut-être sur ces textes de Michel Quesnel, on remarque d'abord que certains d'entre eux, les premiers sont très anciens, mais ils sont quand même très postérieurs à la mort du Christ. Le déicide, ça date de quand?
Oui, les premières expressions sont chez certains pères de l'Église, enfin à l'époque d'Origène et d'Augustin. Mais pour, je crois qu'il faut remonter un petit peu en amont, lorsque l'Église a prétendu être l'héritière d'Israël. Et ça, c'est encore un petit peu antérieur. C'est un père de l'Église d'origine samaritaine, qui est devenu chrétien ensuite, qui s'appelle Justin, qui écrivait vers 150 à Rome, 150 de notre ère, et qui, le premier, a employé pour l'Église l'expression « le véritable Israël ». Autrement dit, Israël a été disqualifié dans sa postérité, comme si l'élection d'Israël était transférée sur l'Église. Et je crois qu'un moment comme ça était un moment fondamental, parce que dans la mesure où le peuple juif est disqualifié en tant que peuple d'alliance, au peuple élu, quelque chose est en germe des vexations et de l'hostilité, de l'agressivité qu'il y aura par la suite.
Mais comment se fait-il, Michel Quesnel, quand on sait toutes les conséquences qu'a pu avoir cette accusation de déicide, que l'Église ait attendu 1965 pour supprimer, au fond, cette idée-là, que les Juifs étaient responsables?
Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Vous voyez, il est très vraisemblable que l'horreur de la Shoah ait joué un rôle assez considérable pour la prise de conscience chrétienne de ce que l'hostilité entre judaïsme et christianisme pouvait avoir comme conséquence. La Shoah n'est pas un événement chrétien, heureusement, mais les siècles d'hostilité qui ont été entretenus ont une lointaine responsabilité dans un événement comme celui-là. Donc, c'est confronté à la monstruosité de la Shoah que l'Église s'est dit, il faut absolument faire machine arrière par rapport à des siècles de tradition.
Parce que, bon, cela dit, on s'est toujours posé la question, au fond, qui est coupable ? Est-ce que ce sont les Romains qui l'ont crucifié, qui l'ont flagellé, qui l'ont cloué sur la croix ? Est-ce que c'est Pilate qui l'a condamné, le procurateur romain ? Est-ce que ce sont aussi ses, parce qu'il y en a eu, ses collaborateurs juifs ? Il faut rappeler qu'effectivement, une partie du Sanhédrin était pour Jésus, l'autre majoritairement était favorable à la crucifixion. Qu'est-ce qui est coupable,
en fait ? D'abord, les responsables sont des personnes et non pas des peuples.
Bien sûr.
Je crois qu'il faut vraiment se dire cela. Donc, ce ne sont pas les Romains. Les Romains, ce n'est pas très gênant parce que, disons, les Romains, on ne fait pas l'amalgame entre Pilate et les Romains de maintenant. Quand on dit les Juifs, c'est beaucoup plus grave parce que le mot juif, d'une certaine façon, se prolongerait jusqu'à maintenant. Ce sont des Juifs, les grands prêtres, certains grands prêtres de l'époque, une poignée d'hommes, et c'est le procurateur romain, Ponce Pilate.
Comment se fait-il qu'un procès qui était aussi peu important, on l'a dit au début, ait pu prendre cette dimension aujourd'hui ? Bien sûr, c'est évidemment le christianisme.
C'est pas un grand procès, parce que comme on le disait au début, ce n'a pas été un procès en la forme. C'est la célébrité du condamné qui a fait la grandeur du procès, si j'ose dire. Et il est vrai que le christianisme n'aurait pas eu la postérité qu'il a eue. C'est un événement dont on ne parlerait à peu près plus dans l'histoire.
Et c'est un événement qu'on retrouve dans votre livre, Michel Quesnel, parmi beaucoup d'autres, dans quelques pages de votre livre, Jésus, l'homme et le Fils de Dieu, donc qui a été publié chez Flammarion. Vous avez également écrit Paul et les commencements du christianisme, publié chez Desclée de Brouwer. À lire également Histoire de Rabbi Jésus, de Jacques Baldet, publié chez Imago. Vous avez pu entendre des extraits, non pas du film de Mel Gibson, qui d'ailleurs était en araméen, mais du film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, avec une distribution extraordinaire, puisqu'il y avait Anthony Quinn dans le rôle de Caïphe, le grand prêtre, et Rod Steiger dans celui de Pilate. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. Je rappelle aussi que nous sommes rediffusés toutes les nuits à 3h03. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin de la Gâtinée. Documentation, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tessier. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi avec...